Il est midi 5, on retrouve tout de suite le Crumble avec Marie-Pierre Planchon.
Merci Laurence Thomas. Et comme je vous le disais la semaine dernière, je vous le confirme, vous retrouverez Chris dès dimanche prochain. Et tout de suite, on commence comme d'habitude avec la petite blague. Florent Darny, vous êtes venu en deux chevaux, mais vous avez apporté aussi une petite blague, je pense.
Oui, j'ai une petite blague, bonjour.
Bonjour.
C'est une petite blague qu'un client belge m'a raconté il n'y a pas très longtemps, donc j'espère que les Belges m'en voudront pas. Elle est assez connue, mais elle est mignonne. C'est pourquoi les Belges mettent-ils des boules-quies dans une église? Parce que Jésus-Christ, voilà, elle est facile, elle est mignonne.
Et Pierre?
Moi, je vais vous raconter une histoire de garagiste, puisque je suis garagiste. C'est un garagiste qui meurt à 32 ans et il arrive au ciel, au paradis des garagistes. Et il va voir Saint-Pierre, il lui dit, là, il y a un problème, j'ai que 32 ans. Saint-Pierre, il dit, vous inquiétez pas, je vais vérifier. Il ouvre son livre, il dit, attendez, monsieur, avec toutes les heures que vous avez facturées à vos clients, vous avez 102 ans, comptez-vous.
Vous nous en voulez pas.
Ah non, au contraire, là, on est plongé dans le paradis, c'est formidable pour commencer.
Samedi dernier, j'ai croisé une deux chevaux décapotée aux Champs-Élysées. Alors j'ai tout de suite eu envie, moi aussi, de faire mon petit tour en deux deux, cheveux au vent. Et c'était parti donc pour quatre roues sous un parapluie. Un concept bien décalé, conçu il y a 5 ans par Florent Darny, un jeune étudiant qui a eu l'idée de transformer sa deux chevaux en carrosse bien douillée et de devenir lui-même un chauffeur bien élégant, jouant à la fois le guide touristique et le cocher prévenant. Et au cas où Florent me ferait le coup de la panne, eh bien je me suis dit, j'invite Pierre Tabonne, le garagiste préféré des deux chevaux bien soignés, surnommé aussi l'homme qui parlait aux deux chevaux. Il aurait pu continuer à travailler pour l'une des plus grandes banques du monde, avec stock option et bonus à la clé, mais ce brillant trader a décidé de tout plaquer. C'était il y a 20 ans. Henri Quinson en a 28, il est millionnaire, mais pour lui, la richesse est ailleurs. Il devient moine. Après plusieurs années passées à l'abbaye de Tamiers en Savoie, à prier et à fabriquer des fromages, frère Henri crée en 1997, dans un quartier du nord de Marseille, la fraternité Saint-Paul. C'est ainsi que l'as des as de la finance devient le boss de Saint-Paul, comme le surnomment les enfants de la cité HLM, pour Henri transformer en habitation des liens des métamorphoses. Des métamorphoses qu'il raconte dans un livre paru aux éditions Nouvelle Cité, Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille. Nous retrouverons bien sûr Elisabeth Lherminier et puis une autre surprise nous attend à la fin de l'émission. Une surprise au téléphone, une surprise de Moscou, car je l'espère, nous aurons en ligne Cédric Mabilote qui a été sélectionné pour participer à un programme extraordinaire. Écoutez bien, simulation d'un vol vers la planète Mars. Ça laisse rêveur, n'est-ce pas Henri? Alors Henri Quinson, quand tout part en vrille, qu'est-ce que vous faites pour remettre tout à l'endroit?
D'abord, je prie, hein, parce que vous savez, il y a quelqu'un qui a créé le ciel et la terre, c'est ce que je crois. Donc, a priori, normalement, à la fin de l'histoire, tout doit bien se passer. Mais aussi, très concrètement, j'ai un accompagnateur spirituel, c'est une expression un peu
un
prétentieuse. Guide. Non, mais c'est pas un guide. En fait, on s'accompagne mutuellement. D'ailleurs, ça va dans les deux sens.
C'est Karim?
C'est pas Karim, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur de la communauté, qui est un retraité, père de famille. Et notre petite règle entre nous, c'est que nous pouvons nous appeler à toute heure du jour et de la nuit. Donc si je pars en vrille, j'appelle cet ami.
Son prénom,
c'est Paul, et je l'appelle. Et comme nous habitons à Fraternité Saint-Paul, et ben, je me confie à cet apôtre Paul du 21e siècle et avec qui nous partageons tout. Donc si tout va mal, s'il y a un problème, si on part en vrille, ben, voilà ce que je fais. Et puis en discutant, on va déjà mieux.
Pierre Tabonne, vous faites quoi vous quand tout va mal pour vous remettre à l'endroit?
Quand tout va mal, je prépare un petit voyage en deux chevaux vers le sud, toujours vers le sud.
C'est ce que vous allez nous raconter tout à l'heure, voilà. Ce que vous partez dans quelques jours.
Oui, bien sûr,
vous nous
direz
où, pas tout de suite. Et Florent, vous faites quoi? Vous faites un tour de deux chevaux ou vous faites quoi?
Moi, soit je fais un tour de deux chevaux dans Paris, soit généralement je passe une petite soirée en famille avec ma femme et mon fils et ça me remet à l'endroit.
C'est mignon. Julien Blair, il vous redonne le la.
Et si telle ombre aux lumières, mais toujours on espère. Et si l'une est comme la terre, mais toujours on espère. Sous le brouillard sur la dune, même encore on espère. Plein de coutrons et plein de plumes, demain c'est mieux qu'hier. Redonne-moi le la. Et j'oublierai pas. Pousse encore une fois. De là, ici terre ou poussière, mais toujours on espère. Et si les neiges, je vois plus la terre, même encore on y croit. Sous la passion qui consume, les cris, la colère, tu passes à travers les lignes sans en avoir l'air. Redonne-moi de là.
Tout le monde se remue les fesses. C'est bon, c'est bon.
Bon, Simone. Trois dollars par obligation. Elle vient chuter à 113,50. Prends tes pêches, toi, prends tout. C'est à toi, rachète tout. T'inquiète pas, rachète tout. Vous êtes un génie, patron.
Quel pourri, il a fait tomber la cote et il reprend les obligations au rabais. Allez, prenez. Prenez tout de suite, allez-y, prenez.
Henri Quinson, vous ne regrettez pas cette époque et ce métier de trader que vous avez abandonné il y a 20 ans ? Pas de nostalgie ?
C'est assez fatigant nerveusement, mais enfin, vous savez, il y a surtout des amis que j'ai gardés. Mais non, je n'ai pas de regrets. J'ai parfois des questions que je peux me poser par rapport à l'organisation des marchés avec les conséquences que ça peut avoir pour le monde et en particulier pour les voisins avec qui j'habite aujourd'hui, qui sont très loin de cet univers, mais qui peuvent en subir les conséquences quand tout va mal. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment de regrets. J'ai fait un peu le tour de la question. Je suis passé à autre chose. J'ai une vie très intéressante. Et donc, je ne vis pas dans le regret.
Alors, Henri Quinson, vous avez donc tout abandonné il y a 20 ans, toute votre vie pour changer de vie, pour aller vers autre chose. À quoi vous avez renoncé exactement ? Combien vous gagniez à l'époque ? Qu'on ait une idée quand même.
À l'époque, je donne toujours ce chiffre. Alors, vous savez, il y avait un salaire fixe et puis il y avait une prime de fonction et puis après, il y avait des bonus.
Les bonus, ces fameux bonus.
Je donne toujours cet exemple parce qu'il est parlant. Je pouvais toucher un bonus pour un mois de travail qui est équivalent à mon salaire annuel de professeur aujourd'hui à l'éducation nationale. Voilà. C'est pour donner une ordre de grandeur sans avoir à faire une gymnastique entre les francs, les euros, etc. Donc voilà, c'était effectivement des sommes très importantes. Et puis les sommes très importantes aussi, c'était les sommes que nous manipulions. C'est-à-dire à 5 traders, nous gérions 15 milliards de dollars. C'est l'équivalent du budget de la Tunisie. Donc c'est des sommes très importantes à gérer et d'où le niveau de stress parce qu'il suffit que le président des États-Unis se gratte le nez de travers et tout de suite les marchés bougent. Donc c'est un environnement très très volatile et avec beaucoup de bruit aussi parce qu'on est en contact avec des tas d'opérateurs et dans la salle des marchés elle-même et le fait qu'on soit toujours à tenir des conversations avec 6, 7, 8 personnes en même temps. Donc c'est fatigant et d'autant que quand ça bouge, tout le monde bouge en même temps. Donc c'est quelque chose qui est assez comparable au travail de la personne qui doit être garçon de café sur les Champs-Élysées à l'heure du repas de midi. Tout le monde se précipite en même temps.
Qu'est-ce qui fait qu'en 1989, donc, vous décidez tout arrêter, vous déclinez la proposition que vous fait une des plus grandes banques du monde?
Oui, Merrill Lynch, une banque américaine, paix à son âme, elle se porte pas très bien en ce moment. Oui. Pourquoi je dis non à Merrill Lynch et pourquoi je dis non à d'autres propositions? Tout simplement parce qu'à l'âge de 20 ans, j'étais le parfait petit consommateur occidental, tout me souriait, tout allait bien déjà à l'époque, et je fais une redécouverte spirituelle importante dans ma vie, une découverte de la prière, d'une relation personnel à Dieu. À l'époque, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire tout ça. Et c'est au bout de 7 ans que je continue de me poser la question, bon, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je peux gagner de plus en plus d'argent, aller travailler à Londres avec Merrill Lynch, mais est-ce que c'est ça que je cherche dans mon existence? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux? Et en fait, je fais un choix un peu radical et surprenant, un peu caricatural, c'est qu'au lieu de continuer dans cette carrière bancaire qui marche très bien pour moi, je décide de rejoindre un monastère en Haute-Savoie, et donc je passe de mes 15 milliards de dollars connectés à toute la planète à la fabrication de fromage dans le silence d'un monastère cistercien dans le massif des Bauges, voilà.
Vous avez dû faire peur à vos proches, non? Il est fou, Henri, non?
Oui, il y a eu, alors, il y a eu des réactions très différentes. Il y a eu effectivement la peur, l'incompréhension, la critique aussi. Et puis aussi, beaucoup de gens qui s'étaient très joyeux parce que, si vous voulez, j'ai beaucoup, à vrai dire, de courriers de lecteurs aujourd'hui qui me disent enfin une bonne nouvelle, parce qu'on parle tout le temps des gens qui escroquent les autres, qui cherchent à gagner de l'argent pour eux, les gens qui s'envoient des obus pour défendre leur petit bout de terre sainte. Mais ça fait du bien aussi de voir qu'il y a des êtres humains, je ne suis pas le seul. Mais c'est important, je pense, de témoigner du fait que, voilà, pour certaines personnes, l'argent n'est pas l'objectif de la vie. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Oui. Voilà, c'est un moyen, tout simplement, qui est utile. Je dis dans mon livre, d'ailleurs, que la monnaie est une invention géniale.
Et que vous aimez l'argent.
La richesse n'est pas un mal. C'est un danger parce que le cœur de l'homme est compliqué et malade, et qu'on s'attache parfois de manière pathologique à l'argent, et que, comme on dit, on serait prêt à tuer père et mère pour gagner de l'argent pour soi. Donc c'est plutôt notre attitude par rapport à l'argent qui est problématique. Et mon parcours, de manière un peu spectaculaire, témoigne d'une certaine liberté par rapport justement à cet attachement parfois mal placé à la richesse.
Pourquoi vous avez mis tant d'années finalement à sauter le pas? Vous aviez peur? Quelle était cette peur?
Parce que je suis un pauvre type et qu'effectivement il faut beaucoup de temps. Vous savez, je mesure 1m94, alors le temps que l'information descende du cerveau jusqu'aux tripes et qu'on prenne la décision, c'est pas évident. Ben oui, ça fait peur quand même, vous savez. Moi j'ai fait mes études de sciences économiques, Sciences Po Paris, je viens d'un milieu dans lequel...
Vous avez été élevé aux États-Unis.
Élevé aux États-Unis, voilà. Donc il s'agissait de maintenir le rang. Et puis si j'épousais une charmante jeune fille, il fallait nourrir les enfants et puis après les envoyer dans une université prestigieuse aux États-Unis ou dans les grandes écoles. Donc il fallait de l'argent. Donc j'avais pensé à tout ça. J'étais quelqu'un de sérieux. Et puis j'avais cette idée éventuellement de faire toute autre chose et qui me faisait peur. Et dans mon livre au début, je dis bien que je n'arrive pas à en parler à quelqu'un. Et parce que ça m'effraie. Oui, il y avait vraiment une peur de me lancer dans cette aventure. Il n'y a pas de peur à avoir, puisque de toute façon, on a le droit de prendre des risques et que la vie, c'est aussi la prise de risque. Et les banquiers, normalement, devraient le savoir, puisqu'ils prennent des risques.
Alors, pourquoi moine? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que vous auriez pu, même à la limite, changer de vie. Pourquoi moine?
Alors, je crois que cette découverte à 20 ans de la prière répondait à des aspirations profondes chez moi. Et je crois que c'est les grandes questions de l'existence. C'est-à-dire qu'à l'époque, ma représentation de Dieu, grosso modo, c'est je suis allé à l'école, on m'a expliqué qu'il y avait le Big Bang, mais on m'a pas vraiment dit ce qu'il y avait avant le Big Bang. Et puis si on m'avait expliqué ça, pourquoi le Big Bang? Pourquoi la vie? Et j'avais cette question avec moi. Je crois que tous les êtres humains se posent cette question. Et puis j'avais à 15 ans un de mes cousins américains, Marc, qui est mort à l'âge, lui, de 13 ans d'un cancer. Emporté en 2 mois, et donc je me posais la question, bon, je vais mourir un jour, tout le monde va mourir, bon, peut-être que Dieu est après la mort, mais je me posais surtout la question à 20 ans, et qui est restée avec moi depuis, qui est la question de la poétesse américaine Emily Dickinson, qui avec humour disait, y a-t-il une vie avant la mort? Et c'est ce qui intéresse la plupart des gens quand même, c'est on sait peut-être pas ce qui s'est passé au début, on sait pas ce qui se passera à la fin, mais le Dieu assurance vie m'ennuie, ça m'intéresse pas, le gros barbu qui nous attend là-haut ne m'intéresse pas. Et donc j'ai découvert à travers des lectures, à la rencontre aussi d'autres personnes, le fait qu'il y avait des gens qui, pour des raisons religieuses ou spirituelles, décidaient de transformer assez considérablement leur style de vie. Et les moines étaient des gens qui passaient du temps pour l'essentiel de l'existence, c'est-à-dire avoir une vie savoureuse comme le fromage de Tamiers, c'est-à-dire avoir du temps pour la prière, se poser la question de l'existence, vivre une vie fraternelle. Et puis les moines sont des gens qui accueillent. Moi, je n'aime pas du tout le prosélytisme, vous savez, des gens qui sont là avec un t-shirt « I love Jesus » qui vous passe à la moulinette de l'ancien du Nouveau Testament avec un baptême par immersion avec 15 jours. J'aime bien les moines, ils travaillent, ils prient, ils sont installés quelque part.
Oui, on a l'impression qu'ils fuient le monde quelque part, non ?
Alors c'est ça la question par contre qui m'a habité dans la suite.
Et c'est ce que vous racontez dans votre livre Un moine des cités qui est paru chez Nouvelle Cité.
Exactement, parce que j'ai eu cette question qui m'a rejoint assez rapidement, c'est cette relation au monde effectivement. Et le choix du lieu chez les moines, ça vient de monos, c'est un mot grec qui veut dire un, donc c'est les communautés de célibataires, ce qui est quelque chose d'assez étrange effectivement, et moi-même je ne pourrais pas vous expliquer à 100% pourquoi je suis célibataire. Jésus, quand on lui pose la question de savoir pourquoi il y a des gens qui sont célibataires, dit « comprenne qui pourra », donc vous voyez c'est une explication assez limitée, mais les moines ont choisi un lieu, on parle des pères du désert, au début c'est les moines se retiraient, vous avez raison de le dire, plutôt dans le désert. Alors le désert c'était aussi la périphérie de l'Empire romain quand il est devenu chrétien, et les moines n'étaient pas simplement des contemplatifs, mais dans les sentences des pères du désert qu'on a retrouvées et qu'on a compilées depuis, ils critiquent beaucoup la société devenue chrétienne à l'époque, y compris les évêques, les responsables des églises, ils avaient un côté un peu subversif. Et donc le désert à l'époque était déjà un peu une espèce de banlieue, c'était pas des banlieues urbaines, mais c'est là que se réfugiaient les gens qui étaient recherchés par la police. Et ben aujourd'hui il y a aussi d'autres formes de banlieues, des lieux désertés, les gens veulent pas y aller, ils trouvent ça dangereux, où en réalité, voilà, il y a quand même une humanité importante. Et donc moi je me suis posé la question assez rapidement de la relocalisation de la vie monastique dans des cités HLM avec cette relation aux autres, des gens pauvres, étrangers, avec qui on n'avait peut-être pas suffisamment de contact dans le monastère traditionnel où j'étais.
Donc vous décidez de quitter le monastère après quelques années de prière et d'affinement de fromage, parce que vous dites que vous êtes frustré, je vous cite, vous dites que vous aviez l'impression de perdre un peu de votre densité humaine, c'est ça ?
Oui, si vous voulez, au début il y avait vraiment du vent dans les voiles, et puis au bout de quelques années je me rends compte que voilà, il y a des indicateurs, si vous voulez, au plus profond de moi-même qui me montrent que bon voilà, j'étais peut-être à ma place pendant certaines années, et puis au bout d'un certain temps, il y a un déplacement, mais ça c'est l'histoire humaine de bien des gens qui se remettent en cause dans leur vie affective, familiale, professionnelle, humaine, donc rien d'anormal. Et je crois que trop souvent on a une vision de la vie, en particulier dans certaines églises, comme on serait des espèces de fonctionnaires de Dieu qui pouvons calculer déjà à l'âge de 70 ans combien nous serons payés en grâce reçue de la Vierge Marie ou que sais-je. Mais c'est une vision à mon avis totalement erronée, et la vie tout court et la vie chrétienne en particulier, c'est une aventure, c'est une prise de risque et c'est une remise en question. Il s'agit de vivre dans la durée quand on choisit un lieu bien sûr, mais c'est aussi des remises en question, et donc il faut être attentif à donner vraiment pleinement tout ce dont on est capable de donner aux autres.
Et donc vous prenez le risque d'aller vous installer dans une cité à Marseille en 1997, et de créer la
Fraternité Saint-Paul.
Voilà. Comment vous atterrissez à Marseille ?
Mais alors ça, c'est quelque chose.
Parce qu'en plus, il faut dire quand même que ce quartier, c'est un quartier où il y a beaucoup d'immigrés et de musulmans. Donc, comment est accueilli un chrétien au milieu de...
Ben oui, ça c'est quelque chose de très étrange. D'abord en 1989, avant même de rejoindre le monastère de Tamiers, après avoir quitté la banque, j'ai une vision. Je me vois précisément à Marseille. Marseille, je ne sais même pas l'écrire correctement. Je l'écris avec un S parce que je suis bilingue et je l'écris comme en américain. Je ne connais personne à Marseille. Je ne suis jamais allé à Marseille. Et je me vois à Marseille entouré d'enfants, visiblement venus du sud de la Méditerranée. Et je les aide dans leur travail pour l'école. Et de fait, après avoir quitté le monastère de Tamiers, par un concours de circonstances, je vais me retrouver à Marseille, où je fonde notre petite fraternité Saint-Paul avec Karim de Brouckère. C'est un Marseillais d'origine algérienne, chrétien, adopté à l'âge de 6 mois par une famille européenne. Et donc c'est un concours de circonstances qui va faire que je vais me retrouver à Marseille. Mais il y a vraiment chez moi un désir qui est rationnel, au sens où il y a effectivement des choses à vivre dans ces quartiers, mais aussi un désir profond qui me fait rejoindre ces quartiers, parce que à la fois j'ai peur de ces quartiers, un peu comme tout le monde je dirais, et en même temps je me sens attiré par cette vie là-bas avec des jeunes qui, en fait, je vais le découvrir quand je vais y habiter, sont des jeunes très dynamiques, qu'on peut appeler par son prénom et qui ne correspondent pas forcément aux stéréotypes qu'on en a vus de l'extérieur.
Alors, vous racontez dans votre livre qu'à un moment donné, il y a un petit garçon qui s'appelle Farid, quand il vous parle, il ferme les yeux. Pourquoi il ferme les yeux ? Il ne peut pas regarder votre croix au cou.
Voilà, alors j'ai une croix au cou ce jour-là et il me dit, ben voilà, moi je ne peux pas regarder ta croix parce que le Coran me l'interdit. Alors je lui réponds, moi j'ai lu le Coran plusieurs fois, il n'y a aucune sourate, aucun passage dans le Coran qui t'interdise de regarder cette croix. Mais c'est pas du tout mon baratin exégétique ou théologique qui le fait ouvrir les yeux. 6 mois après, il s'aperçoit que ses copains viennent jouer au Scrabble chez nous, qui s'amusent bien. Donc il vient jouer au Scrabble, et donc pour gagner la partie, il doit ouvrir les yeux, évidemment. Et donc on voit bien que c'est les grâces du voisinage. Et dans mon livre, je plaide beaucoup pour le fait qu'il faut se rencontrer, mais comme des êtres humains, au-delà de nos étiquettes confessionnelles, certainement au-delà de nos couleurs de peau, au-delà aussi de nos confessions religieuses même.
Et d'ailleurs, Farid, vous l'avez aidé après à faire ses devoirs et le soutien scolaire. Justement, cette semaine, hein, comme par hasard, Fadela Amara, la ministre de la Cité, est allée donc rendre visite dans un quartier de Marseille. On écoute.
C'est une première à Marseille, une ministre debout sur une chaise pour se faire entendre, scène vécue hier à la cité de la Saville.
Dans le 15e arrondissement, Fadela Amara, ministre de la politique de la ville, était venue présenter le plan de relance aux habitants, une visite de terrain qui s'est soldée par des débats houleux. Les riverains n'en peuvent plus d'attendre la rénovation de leur quartier ambiance.
Vous la connaissez par cœur la politique. Moi ça fait 30 ans que chaque année je vois venir des politiciens qui viennent faire des plans de communication dans les quartiers et aucun résultat n'a été fait depuis. Moi, ce que je regarde, moi, ce que je vois, moi, tous les jours, je vis, je passe au quartier, j'ai grandi à l'Absurine dans le 14e, ce que je vois, une dégradation de la jeunesse.
Ça me paraît normal et légitime, et ça répondra amplement à votre question, que le ministre de la Culture met un programme en direction des quartiers populaires, que le ministre du Sport fasse la même chose, que la Culture fasse la même chose, que l'Éducation fasse la même chose, que la Santé fasse la même chose, bref, l'ensemble du gouvernement.
Alors, c'était un reportage de Philippe Bocara de France Bleu Provence. Vous l'avez vu cette semaine, Fadela Amara, Henri Quinson?
Je ne l'ai pas vu car je suis un pauvre petit habitant ordinaire des quartiers nord de Marseille, que tout le monde appelle par son prénom, et je n'ai aucune prétention à participer à la grande politique nationale. Paris nous paraît très très loin.
Mais vous pouvez l'aider, je pense, Fadela Amara, parce que vous-même, vous donnez des cours, vous êtes professeur, même à mi-temps, vous organisez des soutiens scolaires, donc vous êtes vraiment au cœur de la cité, au cœur du problème, et vous pouvez peut-être participer, je ne sais pas moi, à cette école de la deuxième chance dont parle Fadela Amara dans son projet Espoir des banlieues.
Oui, alors il y a évidemment des responsabilités politiques, il y a un environnement qui est la politique de l'emploi, la politique de l'école, la politique du logement social, etc. Mais je vais vous donner un exemple qui va vous montrer l'originalité de notre démarche et la complémentarité de notre démarche qui fait qu'on n'a pas besoin de parler au ministre tous les jours. Notre cité est réhabilitée, justement. D'entendre là des témoignages en disant que ça n'allait pas assez vite. Nous pouvons avoir une cité qui est réhabilitée, mais vous allez avoir certaines cages d'escalier qui vont être saccagées dans les 24 heures. Ce qui montre très bien qu'une intervention extérieure et vouloir tout régler à question de avec de l'argent, ça ne résout pas tout. Ce qui change profondément les gens, c'est la rencontre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité sociale, de mixité sociale. Nous parlons quand même dans notre République de liberté, égalité, fraternité. Mais la mixité en social, on peut en parler pendant très très longtemps. La réalité, c'est que si vous êtes au-dessus d'un certain niveau de revenu, vous ne pouvez pas habiter dans une cité HLM. Donc les gens ne peuvent pas se rencontrer. Et donc la seule solution, c'est de faire de la mobilité sociale descendante volontaire. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je gagnais beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je gagne 1000 euros par mois, même un peu moins. Et donc, je peux habiter dans une cité HLM. Et ça fait 12 ans que j'habite avec mes voisins. Et c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent faire. Et l'idée, par exemple, qu'ils ont eue de monter un petit accompagnement scolaire qui nous permet d'avoir 60 bénévoles qui viennent d'autres quartiers visiter notre quartier, ça permet à nos jeunes de faire cette expérience de la diversité sociale, de la diversité ethnique, culturelle, religieuse, et qui fait que quand vous venez dans la cité Saint-Paul à Marseille, vous ne recevez pas une pierre. On vous dit, ah, vous venez voir à la fraternité Saint-Paul, voilà, c'est complètement autre chose. Mais ça suppose qu'on puisse vivre les uns avec les autres. Et donc, ça ne dépend pas simplement du ministère à Paris qui fait ce qu'il peut. Mais il faut vivre cette fraternité. Et vivre cette fraternité, c'est habiter avec les autres.
Je suis un trader dépendant. Je fais des hasardeux placements à ma banque et à mes clients. J'ai fait perdre beaucoup d'argent. Avec vous, je fais le serment d'essayer chaque jour humblement de modérer mes investissements. Et pour tous ces milliards encore, je demande pardon aux
gens. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Réveille à 7h du mat, t'es déjà en retard. Ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir. Tu finis de placer tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis
suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je ne suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin.
Le peuple était au pouvoir, il n'y avait plus du tout de politiciens, c'était le sou, le bambi des magasins, tout le monde avait un droit, personne n'avait faim.
Et je ne délire pas, mais je suis très sérieux, oh 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 oh. Et je ne délire pas, mais je suis très sérieux, allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin déterminé. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne.
Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont le même que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur.
Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu y as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin.
Chacun sa route, chacun son chemin. Tonton David choisi par frère Djoubaka converti pour l'occasion. Il ne m'en voudra pas. À propos de rêve, justement, Henri Quinson et de destin, un jour, vous racontez dans votre livre à l'abbaye, un frère qui vous dit que, en parlant du jour des vœux, il vous dit, ce jour-là, on donne sa vie à Dieu à la louche, mais après, on la reprend à la petite cuillère. Alors vous en êtes où par rapport à votre engagement? Vous reprenez tout doucement la petite cuillère ou comment ça se passe?
Oui, j'ai des petites cuillères à la maison, oui. Non, mais c'est bien dit. C'est-à-dire qu'on peut s'engager, vous savez, c'est pareil dans une vie de couple, tout est très beau au début, on s'aime, etc. Mais après, il faut arriver à tenir dans la durée, et non seulement tenir, mais surtout enrichir cette relation, que ce soit toujours nouveau, intéressant. Et donc, dans la vie communautaire, dans la vie monastique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se renouveler, et non pas chercher à se protéger, à récupérer de ci, de là. Donc, oui, il peut y avoir des tentations, c'est-à-dire que, par exemple, on peut peut-être préférer passer beaucoup de temps en dehors du quartier. Moi, on me demande beaucoup de témoignages, par exemple.
Oui, surtout en plus avec votre livre, voilà. C'est un peu tentant, justement.
Voilà, ouais. Donc moi je refuse 80% des télévisions, j'accepte quelques très très bonnes radios, mais pas toutes. Et puis j'accepte aussi de rencontrer des jeunes, vous voyez, qui c'est pas là que je
vends. Hier soir, vous étiez en conférence d'ailleurs.
Voilà, j'étais à Avignon, je parlais à des jeunes, c'est pas forcément pour vendre des livres, mais c'est simplement aussi faire prendre conscience à la jeune génération qu'on peut pas passer son temps devant une Game Boy et puis s'imaginer que de l'autre côté de la Méditerranée, alors que les gens n'ont pas beaucoup de travail, les choses vont s'arranger tout seul. Donc ça, c'est très important de témoigner. Mais moi-même, effectivement, comme tout le monde, je dois essayer d'être fidèle au plus profond de ce que je porte en moi, tout en acceptant aussi de me remettre en question et d'enrichir peut-être ma présence dans mon quartier.
Et la relation amoureuse, c'est vraiment définitif?
Alors ça, Dieu seul le sait, mais je ne vais pas vous faire des grandes déclarations ici au micro de France Inter. Mais là aussi, c'est très important simplement d'accepter notre identité profonde. Et moi, je dis toujours que pour ce qui est du célibat, ce n'est pas un mur de clôture qui vous protège. C'est fondamentalement votre désir le plus profond. Et qu'une femme qui serait, avec qui on aurait une relation comme ça de grande tendresse, s'apercevrait assez rapidement, est-ce que c'est quelque chose de vrai ou pas. On peut pas faire semblant de ne pas être soi-même. Donc je crois qu'il ne faut pas du tout avoir peur de ces questions. Il s'agit de vivre dans une fidélité vraiment profonde à notre appel particulier, à notre identité profonde.
Alors Henri Quinson, on retrouve tout de suite Elisabeth qui nous a rejoint dans les studios. Alors j'ai appris d'ailleurs que Saint-Benoît était le patron de l'Europe. Et justement, on parle de l'Europe avec Elisabeth.
L'esprit d'aventure, c'est Elisabeth Lherminier dans le Crumble d'Inter.
Et vous, Elisabeth, alors aujourd'hui, vous avez décidé de sillonner les routes d'Europe.
Ah oui, mais d'une Europe symbolique, vous allez voir. Mmh. Tout ça pour suivre l'idée de Yann-Anthony Nogues. Il est correspondant à Bruxelles du quotidien français La Tribune. Et il a décidé de trouver l'animal qui incarne le mieux l'Europe.
Alors ?
Bon, oui, moi je croyais qu'on avait déjà un drapeau avec 12 étoiles dorées sur fond bleu, un hymne, l'ode à la joie, écrit par Beethoven à un moment où c'était pas la joie. Eh ben non, ces symboles-là, ils n'ont même pas un statut officiel et ils sont mis un peu en sommeil depuis le rejet de la Constitution.
Bien évidemment.
Yann Antony, lui, il a pris au pied de la lettre le thème 2009 de l'année européenne. Imaginer, créer, innover, on va tous s'y mettre. Hein. Et il est parti à la chasse, si j'ose dire, de l'animal qui symboliserait le mieux l'Europe et ses 27 pays membres. Excellente idée, avait immédiatement proclamé Joe Leinen, l'eurodéputé allemand qui préside la très sérieuse commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen.
Que vous avez eu au téléphone d'ailleurs.
Ah oui, il est tout à fait charmant. Je lui avais écrit en anglais parce que je ne parle pas l'allemand. Il m'a répondu en français. C'est ça l'Europe aussi. Alors lui, il dit un animal, bien sûr, ça rapprocherait l'Europe des citoyens. Alors super amusant aussi, on dit les internautes du site internet de la Tribune, où j'ai compté plus de 600 suggestions. Le sujet passionne.
Alors, les résultats, Elisabeth ?
Eh bien, Joe Leinen a associé sa commission à la réflexion pour faire une première liste, issue de tractations, je ne vous dis pas. Alors pour la finale, ils avaient à choisir entre un taureau, en référence à la princesse Europe, enlevée par Zeus, qui s'était métamorphosée en taureau blanc, pour ne pas lui faire peur, mais aussi d'une tortue, alors lente, mais forte aussi, et sans être agressive. Un éléphant, surprenant parce qu'on n'en a pas beaucoup ici, mais enfin robuste, qui lui va aussi doucement. Un lion,
c'est pas mal,
incontournable. Il est déjà présent dans les documents d'une douzaine de pays. Une colombe, image de la paix, du dialogue. Une chouette, incarnation de la sagesse. Vous remarquerez que l'aigle ne figure pas dans la liste. Il avait été jugé trop va-t-en-guerre.
Alors, qui l'a emporté ?
Eh bien, deux ex-aequo, le taureau et la colombe. Alors le taureau, lui, a été très, très appuyé par Michel Pastoureau, le formidable historien des bêtes, au nom de ses 25 siècles de règne européen. Mais il est loin de faire l'unanimité, le taureau. On le trouve sexiste, agressif, balourd, prétentieux et accusé de foncer un peu tête baissée.
Un taureau ailé, non, ça va pas.
Ah, mais on va y venir. La colombe en a tenté quelques-uns, surtout si on prenait comme emblème de l'Europe celle que Picasso a dessinée. Mais d'autres la trouvent trop fragile, naïve, voire trop catholique.
Alors donc, taureau, colombe, un partout, si je comprends bien, du côté des officiels qui ont officieusement voté.
Et oui, parce que Joe Leinen, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que tout le monde n'avait pas apprécié sa démarche, notamment les anticonstitutionnels. Et pour le moment, donc, on en restera là. Et on peut rêver, peut-être, pour l'Europe, d'un taureau blanc ailé, comme vous disiez, comme une colombe.
Pourquoi pas ?
Alors, entre-temps, les internautes ont pris le relais et c'est vraiment amusant de lire leurs contributions. On retrouve toute la gamme des sentiments vis-à-vis de l'Europe. Il y a les fans, les moqueurs, les sentimentaux, les rationalistes. Alors, pour les fans, eh ben, c'est vraiment le loup qui arrive en tête parce qu'il est solitaire, mais vit en groupe, éveille à la cohésion de la meute, parce qu'il inspire le respect, qu'il est noble, fier et pas si agressif que ça. Hein. On l'a bien vu avec la pianiste Hélène Grimaud, par exemple, qui est en élève. Il y en a même qui citent la princesse de Clèves, qu'on retrouve toute seule dans la neige, protégée par des loups. Et puis c'est quand même une louve qui a donné naissance à notre civilisation, en allaitant Romulus et Rémus, fondateurs de la ville de Rome. Et Rome, la ville du traité fondateur de l'Europe. Alors, c'est quand même assez convaincant. Il y a pas mal d'arguments. Hein.
Alors, Elisabeth, est-ce qu'il y a d'autres animaux qui sont proposés sur Internet comme emblème de l'Europe ?
Eh bien, le cerf. Assez bien placé, lui aussi. Alors, on loue son allure, sa gentillesse, sa puissance et sa présence sur tout le territoire européen depuis des millénaires. Et puis aussi le fait qu'il n'a pas de prédateurs et qu'il est difficilement domesticable. Et ça, l'indépendance est un trait de caractère qu'on voudrait bien retrouver dans l'animal Europe. Et par exemple avec l'hermine, qu'on trouve belle, maligne, organisée et pas du genre à dominer.
Ça s'appelait bien.
Alors, toujours en citant les internautes, on trouve aussi le papillon.
Ah, c'est beau ça.
Symbole de liberté, qui ne connaît pas les frontières, pacifique, pollinisateur, donc qui donne la vie. Et puis, est-ce qu'on ne dit pas qu'un battement d'aile de papillon peut provoquer un effet à l'autre bout du monde ? Alors, ce serait une image de puissance, finalement, pour l'Europe.
On suppose que ceux qui n'aiment pas du tout l'Europe ont dû un petit peu se défouler, non ?
Ah ouais, alors là, quel défilé ! Mouton, autruche, blaireau, pigeon, escargot, morpion,
carrément,
limace, caméléon sur une mosaïque, taupe, animal invisible qui se construit un labyrinthe où il se perd lui-même. Ouais, c'est pas fini, hein. Araignée qui tisse sa toile et vide ses proies de leur substance. Pieuvre gélatineuse, singe qui imite l'Amérique. Diplodocus, pour la petite tête de son cerveau et l'incapacité de s'adapter à son environnement. L'Europe en prend un coup. Hein. Et pourquoi pas même une jolie petite sirène, puisque tout ça se terminera en queue de poisson, au sens de l'humour, les internautes. Et habillé pour l'hiver, hein, l'Europe. Mais enfin, bon, puisque l'Europe a décrété qu'en 2009, il fallait imaginer, créer, innover, finalement, je verrai bien. une espèce de cheval, parce que lui, on le trouve déjà sur les murs de Lascaux. Sans lui, il n'y aurait pas eu le développement de l'agriculture en Europe. Et puis, pendant les guerres, il a quand même beaucoup, beaucoup souffert. Hein. Alors, puisqu'on veut un peu un symbole de paix, alors un cheval magnifié, bariolé, comme un zèbre. Mais avec toutes les couleurs des pays de l'Europe. Et puis, j'ai trouvé une suggestion qui devrait plaire à Chris, le chat, parce qu'il retombe toujours sur ses pattes.
Merci Elisabeth. En tout cas, c'est toujours le Crumble avec Henri Quinson, le roi des cités, mais aussi Florent Darny, qui propose de découvrir donc Paris en deux chevaux, et avec son garagiste Pierre Tabonne, qui est bien sûr et qui bichonne toujours ses deux chevaux.
Bonjour ma sœur. Dites-moi ma sœur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la charité?
Bien sûr mon fils.
Merci ma sœur.
Alors Henri Quinson, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, vous ne pouvez pas me refuser une petite balade en deux chevaux, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, je vous ai caché quelque chose, en fait je m'appelle Sœur Marie des Anges.
Vous priez mon fils?
Ben non, oui, et que Dieu nous ait en sa sainte protection.
Les voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route.
Tant mieux.
Il est notre guide. Suivons-le, confions les yeux fermés.
Oui, mais on trouverait-les parce que ça tourne. Ça tourne, voilà.
Aujourd'hui son 50e anniversaire. Inauguré par le président de la République, qui marque ainsi l'intérêt qui s'attache à cette industrie, il proclame en ces temps de restriction le triomphe de la voiture économique. La deux chevaux Citroën, traction avant, est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation, après en avoir été le mystère, avec ses 4 places, ses 4 à 5 litres au 100, ses 60 à l'heure.
Florent Darny, vous voyez ce que vous entendez là, ça vous plaît ce bruit? Moi j'adore.
C'est un bruit incroyable. Ouais.
C'est notre Madeleine de Proust.
Exactement.
Alors c'est vrai que la deux chevaux a eu 60 ans l'année dernière, et même si la fabrication est arrêtée en 1990, il y aura toujours donc des deux schistes un petit peu comme vous malgré les générations. Hein. Comment vous avez eu cette idée, il y a 5 ans, de créer, à la fin de vos études, ce truc-là, 4 roues sous un parapluie, ce concept?
Alors, 4 roues sous un parapluie, hein, c'est en lien, oui, avec l'histoire de la 2 chevaux, hein, parce que c'est une phrase du cahier des charges de la 2 chevaux.
L'ingénieur,
c'est... Oui, en fait, c'est le directeur de Citroën, Monsieur Boulanger, qui avait demandé à ses ingénieurs de dessiner une voiture qui ait la forme de 4 roues sous un parapluie. Donc c'est pour ça qu'on a repris ce nom-là, évidemment, clin d'œil à l'histoire de la voiture.
Donc comment vous est venue cette idée et ce concept?
Alors au départ, c'était vraiment l'envie de créer une entreprise. Donc il y avait cette envie-là, je crois, ancrée
en
moi.
Vous étiez un entrepreneur.
Voilà. J'en savais rien encore, mais en tous les cas, j'avais cette envie-là. Et puis je suis parti à Berlin pour mes études avec la 2 chevaux de mes parents. Donc moi, ça a été ma première voiture. J'ai beaucoup roulé avec. Et puis en fait, en rentrant à Paris, il y a des gens qui se sont arrêtés, qui m'ont souri en voyant la 2 chevaux passer. Et là, ça a vraiment fait tilt. Je me suis dit, mais là, il y a vraiment quelque chose à faire. La 2 chevaux pour faire découvrir ou redécouvrir Paris, un petit peu à l'image des gondoles de Venise. C'est une idée à creuser et puis je me suis lancé.
Donc vous avez commencé avec une Charleston?
Exactement, que j'ai acheté à Pierre.
Ah, d'accord. Ben, vous voyez, je ne savais pas.
Donc c'est la première de la flotte.
Ben, d'accord.
Quand on parle... Il y a toujours.
Ah bien sûr, elle fait toujours partie de la flotte. Moi, c'est évidemment une de mes préférées, parce que c'était le lancement de l'aventure.
Donc Pierre Tabonne, hein, je le rappelle, qui est garagiste en banlieue à Paris, à Arcueil, à 3 minutes de la porte d'Orléans.
C'est ça.
Vous vous rappelez quand Florent est venu chercher sa décharge?
Cette Charleston très belle, j'ai failli la vendre dans le Luberon à un Américain et je lui ai vendu beaucoup moins cher à lui, parce que c'est un petit jeune qui démarrait à l'époque et ça me faisait plaisir de lui donner un coup de main.
Alors vous dites, hein, Florent, dans un petit peu la documentation que j'ai lue sur vous, que la 2 chevaux, c'est qu'un cocon qui éveille les sens. Je pense que d'ailleurs Pierre sera d'accord avec ça.
C'est vrai, on a entendu le bruit du moteur tout à l'heure et puis évidemment elle est décapotable, donc on a une très bonne vue sur l'ensemble des monuments ou même des petits détails architecturaux. On a mis du velours à l'arrière et des coussins, donc touché. Enfin oui, pour moi c'est vraiment une voiture qui éveille les sens et puis qui en plus fait sourire. C'est quand vous conduisez une chevaux, les gens vous sourient. Quoi.
Vous dites même, hein, que les touristes dans les cars vous photographient.
Prennent des photos, ouais, tout à fait.
Et mais moi quand j'ai vu la 2 chevaux la semaine dernière, c'est exactement ça. J'ai regardé et je me suis laissé entraîner par la 2 chevaux. Quoi, ça donne envie tout de suite.
Exactement. Et au-delà de ça, enfin au-delà de la 2 chevaux, ce qui est très important pour moi, c'est le fait qu'il y a un chauffeur privatif avec de vraies qualités d'accueil. Donc c'est une personne qui va aller évidemment devant l'hôtel et va accueillir les gens, que les gens vivent une vraie expérience parisienne et qu'il y ait une vraie rencontre entre le chauffeur et les passagers. Et donc on a plein d'anecdotes rigolotes, mais moi-même au début évidemment je conduisais beaucoup et je me suis fait inviter du coup en Suisse, aux États-Unis, etc. C'est des gens qu'on connaît pas au départ quand ils arrivent dans la voiture et puis au bout d'une heure et demie ou 3 heures de balade, on a l'impression
ça crée des liens,
réellement ça crée des liens.
Et vous avez créé des liens avec célèbre Monsieur Virgin.
Ah oui, alors ça c'est un des grands souvenirs, mais effectivement j'ai eu la chance d'accueillir Richard Branson quand il est venu à Paris pour la sortie de son livre. Donc c'était en 2006 et il a choisi, alors il a toujours des idées un peu farfelues, mais effectivement il a choisi une 2 chevaux pour sa journée presse et donc je l'ai conduit toute la journée. Alors ce qui est rigolo, c'est que lui maintenant il est en train de préparer le tourisme spatial, donc c'est des balades de 3 heures, mais c'est pas en 2 chevaux dans Paris, c'est avec des navettes et dans l'espace. Donc j'espère qu'il m'invitera
pour un petit tour dans l'espace.
Ça me ferait plaisir.
Moi, nous, on ira déjà tout à l'heure dans la cité des étoiles à la fin de l'émission. Mais Pierre Tabonne, pourquoi on a arrêté la fabrication de la 2 chevaux en 90?
Bah, elle était plus aux normes au niveau de la sécurité, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêtée. Mais là, elle va peut-être durer un petit peu plus longtemps, parce qu'il y a 4 techniciens dans le Loir-et-Cher à Blois qui sont en train de mettre un moteur électrique dans la 2 chevaux. Là, ils sont en plein dans les essais et ça va bientôt sortir.
Donc l'année dernière, vous avez participé à l'opération et à l'exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie sur les 60 ans de la 2 chevaux. Ça a eu un grand succès, cette exposition.
Oui. Et puis j'ai fait aussi peindre des éléments de 2 chevaux par des écoles. J'ai fait peindre des 2 chevaux par les écoles. Et en ce moment, j'ai réussi à monter tous les éléments d'une 2 chevaux dans l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Et il y a une dame qui s'appelle Christine Géricault qui fait peindre tous les enfants qui sont en traitement, qui sont malades. Et on va remonter cette voiture et l'emmener à Bamako.
Et vous partez dans 3 jours.
Oui, mais pas avec cette voiture-là, mais oui. On part dans 3 jours, ouais. Et puis il y a Christian Lacroix qui a trouvé l'idée sympa et qui va nous faire les sièges de la bagnole.
Oh là là, le luxe, ouais. Dans la Deux-Neiges.
Et puis bon, tous les enfants qui sont en traitement à Gustave Roussy sont très contents, et les parents aussi. Et ça, c'est vraiment génial.
Et donc, vous partez où, là, à Bamako, bah
là,
pour quoi faire?
À l'hôpital de Bamako, dans un service d'oncologie, livrer des voitures et une petite camionnette 8 places pour transporter les enfants malades là-bas.
Vous voyagez toujours en 2 chevaux, alors?
Oui, et puis j'emmène plein de clients avec moi cette année. Là, on part à 10.
Oui.
Et puis, à travers la Mauritanie, ça va être un voyage sympa.
Vous avez rencontré les Dogons aussi. Comment ils ont perçu la deux chevaux, la deux dèches?
Ah, bah, ils ont aimé, hein, les Dogons. Puis j'en ai laissé une là-bas.
Et vous voyagez en 2 chevaux ou vous avez un autre moyen de locomotion?
Moi, malheureusement, j'ai pas trop le temps de voyager, mais dès que j'aurai un peu plus de temps, je voyage par procuration. Il y a notamment mon cousin Étienne qui lui a fait 40 000 km en 2 chevaux.
Oui, alors parce que en fait Pierre Tabonne est venu avec un livre.
Oui, je crois que c'est l'exemplaire numéro 1.
C'est le livre de son cousin et il n'est pas encore sorti. C'est le premier exemplaire du livre.
Le monde est petit.
Et son cousin Étienne Darny, il est parti faire un périple terrible. Et je lui ai fait une petite fête dans mon garage avant de partir, la veille de partir. Et il m'a téléphoné le lendemain. Il était en panne à Châteauroux le premier jour. Oh. Donc on lui a envoyé 2 cardans dans une valise par la gare d'Austerlitz. Et il a fait un super voyage et un moment avec le téléphone portable, il m'a appelé, il m'a fait écouter son moteur et il y avait une bielle de coulée. Et alors là, on a démonté un moteur ici, on l'a mis dans une valise et son papa a pris l'avion, il a traversé la frontière libanaise, il est parti en Syrie jusqu'à Alep. Et là, il y a un mécanicien qui lui a remonté la tire en 2 heures et il est reparti jusqu'à Calcutta.
C'est Garagiste sans frontières,
c'est la hotline.
Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une 2 chevaux?
Ah oui.
Comment bien choisir une 2 chevaux d'ailleurs?
Faut qu'il y ait la structure, faut que le châssis soit parfait.
Alors on écoute un petit bruit aussi là, j'adore le bruit de la 2 chevaux qui démarre. Attention, on ouvre la porte, ça grince.
Ah ouais, ah, c'est
top. On se fait plaisir comme on peut. Hein. Alors donc, pour bien la choisir, comment on fait?
Il faut qu'il y ait une bonne structure. Ça. Alors les gens qui cherchent des 2 chevaux en général, il faut qu'ils demandent à un garagiste quand même si elle est bonne. Il faut qu'il y ait un bon contrôle technique pour acheter ça.
Henri Quinson, c'était la voiture des prêtres, des curés, des sœurs, la 2 chevaux.
Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça super parce que je trouve que quand on va à Londres, par exemple, il y a ces autobus rouges et que finalement, avoir quelque chose d'un peu équivalent, encore mieux, parce qu'évidemment, les Français font toujours mieux que les Anglais, hein, puisque nous roulons à droite et nous faisons les choses différemment. Mais l'idée d'avoir une espèce d'autobus qui, en fait, est privatif, vraiment, où il y a un contact direct avec le chauffeur, je trouve ça génial. Et c'est vraiment typiquement français, donc il y a quelque chose à cultiver, là.
Et avec le ciel, puisque c'est décapoté, il y a la vue sur les étoiles pratiquement.
Tout à fait.
Et quand il pleut, comment vous faites?
Bon, on referme la capote. Mais généralement, il ne pleut pas très longtemps et c'est tellement facile de l'ouvrir ou de la fermer que voilà, dès qu'il s'arrête de pleuvoir, hop, on ouvre.
Vous baladez les gens dans Paris?
Oui,
vous organisez des pique-niques.
Exactement. Ouais. En fait, on s'adresse à la fois à des particuliers, donc des petits couples, etc. Et puis aussi, comme on a 26 voitures, on organise aussi pas mal d'événements d'entreprise, donc tout ce qui est chasse au trésor pour du team building ou des choses comme ça, et puis pas mal d'événementiels et de communication.
Ça marche bien pour vous, hein, parce qu'au départ, vous avez commencé avec une.
Ah bah avec une seule,
en 2005, vous en aviez, en 2006, pardon, vous en aviez 8, je crois. Ouais, et aujourd'hui, vous en avez combien?
Ben, on en a 26 en propre, là, donc c'est pas mal.
Comme quoi, quand on a des idées, hein, ça roule.
Ouais, ensuite, c'est du travail, mais ça. Enfin, faut que ça continue.
Il y a du pétrole, bien sûr.
Pierre, vous allez aller ce week-end au salon rétromobile à la porte de Versailles.
Oui, bien sûr.
On peut voir des 2 chevaux là-bas.
Oui, il y en a. Oui. Il y a des clubs de 2 chevaux. Enfin, c'est tous les passionnés de bagnoles vont à rétromobile.
Donc, on se retrouve après la musique et notre CD. On part dans les étoiles à Moscou.
Une recette originale de Chris, expérimentée cette semaine par Marie-Pierre Planchon.
In the sauce of remains of what was thought but unsaid, all the calcified arithmetists are doing the math. And it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, with all the homeless sociopaths. Calcium mines, you buried deep in your chest. So calcium mines, you buried deep in your chest. Ooh, you're deep in our mind. Ooh, calcium mines. Oh, well, let's get out of here. Pass the atmosphere, squint your eyes and no one dies or goes to jail. Pass the silver bridge, oh the silver bridge, when nothing but a onesie and a veil.
Andrew Bird, Oh No, sur France Inter, c'est le Crumble toujours. Florent Darny, c'est quoi le titre de du livre de votre cousin? On a oublié de le dire, alors, faut quand même le dire.
C'est Avec ma foi pour tout bagage, donc ouais. C'est Étienne Darny et c'est édité aux presses de la Renaissance.
Donc combien il a parcouru en deux chevaux?
40 000 kilomètres.
Oh là là, ouf. Alors tout de suite, nous, on part dans les étoiles avec Cédric Mabilotte parce que nous l'avons au téléphone. Enfin, bonjour Cédric.
Bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous de Moscou sous la neige.
Il fait froid aussi, je suppose.
Oui.
Alors vous avez été sélectionné, Cédric, avec trois autres Européens pour suivre une formation accélérée de cosmonautes. Dites-nous, pourquoi vous avez été à sélectionner? Qu'est-ce qui a fait la différence?
Oui, alors c'est une drôle d'aventure. Il s'agit d'un projet qui s'appelle Mars 500 et dont le but est de simuler le voyage humain vers Mars, puisque l'homme se décide, après la Lune, à aller poser son pied sur Mars. Donc il y a à peu près un an et demi, un appel à candidature européen a été lancé. On a été plus de 5600 candidats et ça tombe sur moi. Donc après différentes étapes de sélection, je me retrouve maintenant à Moscou, au centre de la Cité des Étoiles, de formation des cosmonautes russes. Et donc c'est très très intéressant. Mais en fait, quand j'ai vu cet appel d'offres à l'époque, pour quelqu'un de curieux comme moi, c'était assez difficile de résister, je dois dire.
Pourquoi vous vouliez tenter l'aventure? Vous pilotez déjà, non? C'est fou quand même.
Oui, alors en fait, au début, j'ai plutôt candidaté comme ça, par hasard, pour voir un petit peu de quoi il s'agissait. Et quand, au fur et à mesure de remplir le dossier, je me suis aperçu que toutes les cases à cocher correspondaient à mon profil, et j'ai commencé à comprendre que j'avais peut-être une chance d'être sélectionné. Donc j'ai étudié en fait l'aéronautique, j'ai fait une formation de pilote professionnel et d'ingénieur aéronautique.
Vous parlez russe aussi?
Et je parle russe, et puis à côté je suis pilote de deltaplane et de parapente. Donc voilà, il y avait plein de petits éléments comme ça qui me faisaient des atomes crochus avec ce projet.
Alors vous rentrez dans le caisson, on va dire, pour 105 jours, je crois, quand exactement?
Oui, voilà. Alors, donc il y a deux phases. Il y a une première phase de 105 jours qui va commencer le 31 mars, après deux mois d'entraînement ici à Moscou. Donc cette première phase sera en fait principalement pour valider tous les protocoles scientifiques, les expériences qui vont avoir lieu, et afin de pouvoir commencer par la suite une plus longue phase qui sera de 500 jours, donc c'est très très loin, un an et demi d'une vie humaine.
Bon bah écoutez, on se donne rendez-vous dans 110 jours à peu près, Cédric.
Oui, tout à fait.
En tout cas, merci à vous, et puis vraiment merci aussi au directeur, hein, qui vous a donné le feu vert pour nous appeler ce matin.
Oui, oui, oui.
Voilà, et je remercie donc Henri Quinson aussi, qui était avec nous ce matin pour son livre « Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille », paru aux éditions Nouvelle Cité. Merci aussi à Florent Darny, merci à Pierre Tabonne. Pour tout savoir sur vos activités, je vous renvoie sur le site de France Inter, franceinter.com, le Crumble, puisque vous avez deux sites sur lesquels on peut aller voir un petit peu tout ce que vous faites. Et merci à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Merci, merci encore. Merci à toute l'équipe du Crumble, à la réalisation Simone Depoux, assistante Christine Kern, stagiaire Violaine Picon, et merci aussi à Marion MCK Jorsen, et merci aussi à Anne Delavaux pour les extraits de Lina. Aux manettes aujourd'hui, Olivier Daligo et Céline Bonhomme. Je vous rappelle que toutes les infos, vous pouvez les retrouver sur franceinter.com. Vous pouvez aussi réécouter, podcaster l'émission. Et si vous n'avez pas internet, eh bien vous pouvez toujours appeler les auditeurs, toujours au 3230. Et surtout, ne manquez pas après les informations. Le journal de 13h, l'émission Périphérie d'Edouard Zambo. Et n'oubliez pas non plus, si cette semaine c'est la crise, pensez à la chanson comme dans un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et on va chercher le soleil, ou ça, sous les branches.